Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter.
En direct du studio 611, une émission réalisée par Olivier Bétard, assisté de Karen Dehé, avec à la technique aujourd'hui, Grégory Wallon et Hélène Langlois.
Au sommaire aujourd'hui, résistance à la ferme des Bouillons et Georges Courtois, gangster à la retraite.
La SAFER, en principe, aurait dû étudier tous les projets, dont le nôtre.
Et moi, j'étais déjà gangster à l'époque, c'était pas le moment de nous piercher. Hein.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Comme un bruit qui court, qu'à l'heure même où je vous parle, une vélorution est en cours. Et d'ici la fin de l'émission, elle aura atteint sa destination, place de la République à Paris. C'est peut-être pas le grand soir, mais un grand rassemblement festif qui marque l'arrivée du Tour Alternativa après plus de 5000 km à pédaler et réfléchir à comment allier environnement et justice sociale. Avec un mot d'ordre, changeons le système, pas le climat. Ce sont ces mêmes Alternativa qu'Antoine vous avez fait entendre l'année dernière à l'occasion d'une mobilisation dans l'Oise contre l'installation d'un hypermarché sur de bonnes terres agricoles. Et si vous allez place de la République, vous retrouverez des membres de la ferme des Bouillons près de Rouen. Et eux aussi luttent depuis 2012 contre la destruction des campagnes sous le bétonnage des hyper. Et ils ont à moitié gagné. Gagné parce que le groupe Auchan ne s'y installera pas, mais aussi ils sont faits expulser. Et c'est pourquoi Antoine est allé les retrouver face aux autorités, parce qu'un combat n'est jamais perdu tant qu'on n'a pas gagné. Mais pour ce qui est des fortes têtes qui refusent de se soumettre à l'autorité, Charlotte Perry, elle, va nous faire rencontrer un drôle de personnage. Georges Courtois, gangster à la retraite, tout juste rentré ranger des voitures, et qui revient sur ses problèmes avec l'autorité. Pas l'apologie du crime, mais un exemple, un de plus, de l'absurdité de tout répressif. D'une autorité qui n'a pour seul souci que de rassurer les braves gens en enfermant les bandits à double tour dans des prisons dont ils se ressortiront, bandits encore plus entreprenants. C'est contre ça aussi que Georges s'est opposé derrière les barreaux et maintenant dehors depuis peu de temps. Alors, chers auditeurs franciliens, attendez bien la fin de l'émission pour vous joindre à la révolution, parce qu'un bruit qui court, ça ne s'arrête pas comme ça. La preuve, à la ferme des Bouillons.
Antoine Chao, Charlotte Perry,
qui vont-ils ? Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Bonjour, bienvenue sur le serveur vocal de la SAFER de Haute-Normandie. Pour le département de Seine-Maritime, tapez 1. Pour le département de l'Eure, tapez 1.
Bonjour.
Bonjour, je suis journaliste à Radio France et j'aurais aimé parler au président de la SAFER, Emmanuel Yest.
Et c'est à quel sujet ?
La ferme des Bouillons.
D'accord. Et dans quel but, si je puis me permettre ?
J'aurais aimé savoir qu'est-ce qui a été décidé au CA donc, mardi dernier et qu'est-ce qui a motivé la décision donc, de la SAFER de ne pas préempter et donc de ne pas étudier de projet alternatif à celui des mégares.
D'accord, et eh bien écoutez, je vais lui en faire part.
C'est gentil.
Il va vous rappeler, hein. Voilà.
Pardon ?
Je ne sais pas s'il vous rappellera, je ne sais pas, monsieur. Je vais tout de même prévenir immédiatement, d'ailleurs.
C'est gentil, voilà. Merci beaucoup.
Merci,
au revoir. Bon, on attend toujours. C'est que cette décision prise par la SAFER, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, et son directeur, Emmanuel Yest, au sujet de la ferme des Bouillons, pose question. La ferme se trouve à Mont-Saint-Aignan, en périphérie de Rouen, et les militants écologistes, expulsés le 19 août dernier, alors qu'ils occupaient la ferme depuis 2012 pour protéger ses terres agricoles et périurbaines contre l'installation d'une grande surface du groupe Auchan, ne lâchent pas l'affaire. Ils se sont donné rendez-vous pour en savoir plus devant le pôle départemental de la SAFER, avec un petit chapiteau et des galetières, c'est des plaques à crêpes, pour pique-niquer et accueillir le conseil d'administration de la SAFER qui se réunissait mardi dernier à Guichainville, tout près d'Évreux. Allons-y, nous aussi, retrouver les membres de l'association de protection de la ferme des Bouillons, notamment Guillaume Blavette.
Mesdames et messieurs, nous arrivons en gare d'Évreux, notre terminus.
Alors, c'est une histoire assez banale. En août 2012, avec une adjointe au maire de Mont-Saint-Aignan, on passait chemin des Bouillons et on s'est rendu compte qu'il y avait un permis de démolir sur cette magnifique ferme. Et ensuite, on a commencé à interpeller la municipalité, PS de l'époque, qui a oublié manifestement de faire préemption. Et donc, cette ferme a été achetée par le groupe Immochamp.
Secteur immobilier du groupe Auchan.
Ouais, ouais, exactement. Hein. C'est une des nombreuses filiales de la famille Mullier. Hein. Et donc, leur but, c'est d'acquérir du foncier et de l'immobilier à des buts souvent spéculatifs, mais aussi pour permettre le développement des activités commerciales du groupe. Parce qu'en fait, dans ce secteur de Mont-Saint-Aignan, depuis 10 ans, on résiste. On est en bordure de forêt. En 2003, on avait bloqué la construction d'un multiplex. On pensait que la zone était sauvée. Et donc là, en 2012, nouvelle menace. Et courageusement, puisque la mairie n'avait pas fait préemption, un groupe de militants autour de Philippe, là, qui est juste à côté de nous, occupe la ferme. Hein, et une association s'est constituée autour de cette occupation 3 années durant. Et on a tout restauré, tout remis en culture avec l'aide de la Confédération Paysanne. Hein, aujourd'hui, l'association de la Ferme des Bouillons, c'est plus de 1000 adhérents. C'est une des plus grosses associations de l'agglo de Rouen. Et devant ce succès, manifestement, les pouvoirs publics n'ont pas tenu à ce qu'une ZAD sorte par le haut. Parce qu'on était des occupants sans droit ni titre, mais on a valorisé un terrain. On vendait nos légumes, on organisait des festivals chaque année. C'était devenu un vrai lieu de vie, de culture à tous les sens du terme. Et ça, manifestement, ce n'est pas passé. Et opportunément, une famille, vieille famille bourgeoise de Rouen, a pu, pour un prix dérisoire, acheter la ferme, hein, à peu près 150 000 euros, alors que Immochamp l'avait acheté 700 000 euros en 2012.
Et ce qui est important, c'est qu'entre-temps, vous avez obtenu que ces terres soient inconstructibles.
Alors ça a été la première étape qui a été remportée par l'association, que la zone soit reclassée zone naturelle. Et donc là, on est toujours mobilisé avec l'espoir au fond de nous de récupérer cette ferme pour continuer nos actions aux côtés de tous nos adhérents.
Alors c'est Voix de la Garenne, on est à Évreux, en tout cas aux abords d'Évreux, et c'est la maison des agriculteurs qui abrite les bureaux de la SAFER Haute-Normandie. Il y a un petit cordon de policiers, et en face il y a alors quelques petites tentes et un petit rassemblement de militants de l'association de protection de la ferme des Bouillons.
La SAFER, c'est une entreprise hein, qui a une mission de service public, qui a une échelle régionale. Et donc, ils ont des locaux à Bois-Guillaume, devant lesquels on a manifesté début août, mais sans avoir gain de cause. Et ici, à Évreux, puisque on est dans l'heure, notre région, pour l'instant, a 2 départements. Et bien entendu, pour ce CA très tendu, puisque l'affaire des Bouillons est à l'ordre du jour, ils ont essayé de se déterritorialiser, pensant qu'on n'allait pas les suivre. Maintenant, voilà, on est quoi, une grosse cinquantaine aujourd'hui, on est arrivé avec les Galtières, voilà, on chante, on se distrait, et on les interpelle surtout, parce que on attend toute la transparence. Parce que la terre appartient à tout le monde.
L'idée, c'est quand même derrière tout ça qu'au niveau de notre association, s'il y a des citoyens qui ont envie de continuer le combat, qui ont envie de continuer à creuser la question de toute cette malgouvernance des zones rurales ou des zones peu urbaines, que notre association soit une vigie, qu'on surveille tout ce qui se passe au niveau de la métropole, au niveau de Rouen, parce que des problèmes comme la ferme des Bouillons, ben, on est persuadé qu'il y en a tous les 3 mois. Là, on nous en a encore eu signalé, je crois, de 14 hectares sur Canteleu. Bouygues est intéressé, la mairie ne sait pas trop, elle a dit entre autres qu'il ne faut pas qu'il y ait un deuxième bouillon là. Enfin, donc notre idée c'est qu'effectivement on arrive, si c'est possible, dans chaque commune, à ce qu'en fonction d'où on habite, qu'on surveille les avancées justement sur les terres agricoles, sur les zones à urbaniser, parce qu'il y a d'autres fermes des Bouillons à sauver. Celle-là on l'a sauvée de manière magistrale, et la réaction qui nous est revenue par une commune qui dit attention, on va refaire un deuxième bouillon, ça veut dire qu'on a une force créatrice, une force de proposition et une force de travail, donc ça, il faut le faire, mais ça se fait pas tout seul.
Ouais, Philippe Vu, donc voilà, une 60aine d'années, militant écolo de longue date. On avait déjà sauvé, il y a une 20aine d'années, 10-12 hectares sur Rouen, là, d'une zone commerciale. Et puis là, on a été recontacté pour dire, là, il y a une belle ferme qui va disparaître au fond d'une impasse, il faut faire quelque chose. Et puis, À quelques-uns, on s'est dit pourquoi pas. Effectivement, c'est complètement inacceptable de démolir ces trois maisons d'habitation et ces 8 bâtiments là sur 4 hectares. Si les citoyens veulent s'en occuper, veulent nous rejoindre, on va essayer de faire bouger les choses. Et puis c'est comme ça que l'affaire a démarré. En tant qu'écologiste, on est évidemment sensible à toute cette malbouffe et puis aussi surtout des disparités entre le nord et le sud au niveau de la planète. C'est René Dumont, 74, j'avais une vingtaine d'années, même pas, mais c'est ce qui m'a formé intellectuellement sur cette réflexion-là au niveau de la planète, quoi. Ce qui se passe au nord, ça rejaillit sur le sud, et puis ce qui se passe ici, entre les grandes fermes, les fermes-usines, et puis les petits paysans et les paysages et la nourriture, tout ça, c'est une question que l'on se pose régulièrement.
Yes,
c'est le président de la SAFER, évidemment membre de la FNSEA, mais c'est le président de la Fédération Nationale des SAFER, donc c'est effectivement lui qui a pris la décision de ne pas faire la préemption et puis de donner la ferme à ses petits copains. On a essayé de sauver cette ferme-là, on l'a obtenue, les élus ont modifié le plan local d'urbanisme.
Après, une première victoire.
Voilà, c'est une grande victoire qui restera une victoire quoi qu'il arrive. On a sauvé cette ferme-là et puis après, la deuxième étape, c'était de dire on souhaite faire une ferme bio, on souhaite installer des jeunes, on souhaite faire des magasins de producteurs, ouvert au public, et donc on a développé un projet à présenter pour acheter. Et on s'est fait doubler par des copains de Auchan, de Muliez, et nous on a demandé qu'il y ait une préemption pour que tous les deux dossiers soient examinés. Le dossier de cette SCI là, qui est celle d'un promoteur immobilier avec un frangin qui a jamais fait de bio, qui a jamais fait de permaculture, mais bon, la SAFER a dit que c'était un beau dossier. Et le scandale, c'est qu'effectivement la SAFER et ses copains de la FNSEA avec le préfet ont décidé qu'il n'y aurait pas de préemption. Donc c'est pour ça qu'on s'est fait expulser il y a un peu plus d'un mois, donc le 19 août. Finalement, c'est ceux qui ont les plus gros bras, qui ont les plus gros tracteurs ou les plus gros camions qui gouvernent la France à un certain moment. Et ça, en tant que citoyen, on l'accepte difficilement.
C'est
la sortie des écoles.
Là, le truc, c'est que le cahier des charges.
Il faut s'apprêter à chanter.
BMW
visiblement de pauvres petits paysans.
Mais ça doit être des agro-industriels vu le costume qu'ils ont. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas dû toucher la terre.
C'est la sortie du conseil d'administration de la SAFER.
Ouais, comme on achète du porc français, qu'ils n'achètent pas des bagnoles françaises. J'ai remarqué. Hein.
Alors là, il y a les bureaux de la FDSEA aussi, et la Confédération Paysanne, elle prend part dans ce débat.
C'est un lieu qui montre bien comment est organisé le secteur agricole, ou plutôt les intérêts agricoles en France. Ce qu'on voit qu'il y a un mélange entre des institutions publiques ou parapubliques et un syndicat. En l'occurrence, on peut chercher sur le panneau, on ne va pas avoir trace de la Confédération Paysanne, qui compte pourtant de nombreux militants dans l'heure. Et nous, ce qu'on dénonce, c'est cette collusion complète, puisque ceux qui ont acquis la ferme des Bouillons sont des administrateurs de la Mutualité Sociale Agricole, et ce sont des gens qui sont dans tous ces réseaux, qui considèrent la terre, ce bien commun, comme un bien privé, et qui se les partagent entre eux. Et quand il y a des nouveaux entrants, une association collective comme la nôtre, avec une intention de protéger l'agriculture périurbaine, de revitaliser ses périphéries dans un beau territoire comme la Normandie, on se fait dégager parce qu'on ne fait pas partie du sérail. Et c'est aussi pour ça qu'on manifeste ici. On a le droit d'être des agriculteurs comme les autres, parce que la terre appartient à tout le monde.
Par qui c'est Perrine ?
C'est la représentante du conseil régional de Haute-Normandie, qui fait partie du conseil d'administration et qui s'est battue pendant un mois courageusement pour demander une réunion du conseil d'administration. Parce qu'on estime que c'est le conseil d'administration qui aurait dû être au courant de cette demande de préemption et puis d'examiner s'il y avait préemption ou pas. Et que ça soit pas uniquement le président qui décide tout seul dans son bureau si le dossier des mégares est un bon dossier ou si le nôtre est meilleur. Périne Hervé Gruyère, qui est l'administratrice, qui avait demandé.
Hervé Gruyère. On m'a rappelé très fortement que j'avais une obligation de confidentialité.
Le fait est que les seules informations que je puisse livrer, c'est que la vente a eu lieu. La vente est effective, donc l'acte a été signé. Et que les questions qui ont été posées au président de la SAFER ont été répondues, mais uniquement verbalement. Le conseil d'administration a entériné la décision, a entériné toutes les décisions qui ont pu être prises. Maintenant, ce n'est pas à moi de décider que quoi que ce soit est terminé.
Bon. Merci à Périne. Philippe.
Claude Taleb, vice-président du conseil régional de Haute-Normandie, chargé de l'agriculture et de l'économie sociale et solidaire. Bah écoutez, ça a été difficile à obtenir, puisque finalement, le président de la SAFER, au bout de 2 semaines seulement, a daigné répondre en fixant une date 3 semaines plus tard pour réunir un conseil d'administration qui, à l'évidence, aurait dû réunir avant de prendre sa décision de non-préemption. Puisque, comme vous avez pu l'entendre, c'est une décision qui est totalement injustifiée et injustifiable. Parce que s'ils avaient un peu regardé, examiné le dossier, ils se seraient rendu compte que la personne à qui ils ont attribué, c'est quelqu'un qui n'a pas la capacité agricole. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. À chaque fois qu'il est interrogé sur le sujet, dans les médias locaux, il explique qu'il n'est ni permaculteur comme il l'avait laissé entendre un premier temps, et encore moins maraîcher non plus. Hein. Donc voilà. Après, question qui est quand même incroyable et à laquelle j'espère on aura une réponse, c'est le prix incroyablement bas de cette transaction. Vous savez, moi j'habite à Mont-Saint-Aignan, je connais le prix du foncier à Mont-Saint-Aignan, et les agriculteurs savent aussi que 4 hectares de terre agricole au plein cœur de la métropole de Rouen, avec une maison habitable, avec des bâtiments qui peuvent être rénovés, ça vaut évidemment beaucoup plus que 150 000 euros qui ont donné lieu à cette transaction. Donc là, il y a une très grosse question qui se pose. Et dernière chose, enfin, il y en a d'autres, mais qui me surprend, c'est que le président de la SAFER est le chantre, enfin, en tout cas se veut le chantre des combats contre la cession de terres agricoles des sociétés. Et là, il vient de laisser passer sans préempter une cession à une SCI. Donc ça aussi, c'est très étonnant et ça retire beaucoup de crédit à ce qui peut être dit par ailleurs par la SAFER. Et l'association de la ferme des Bouillons avait toutes les qualités pour répondre à un appel à projet. Peut-être aussi beaucoup d'agriculteurs de Normandie, ou d'ailleurs, qui auraient pu répondre à un appel à projet transparent. Comme l'a dit Périne Hervé-Grouillet, c'est le conseil d'administration de la SAFER d'aujourd'hui qui est terminé. Mais l'histoire, elle n'est absolument pas terminée. Les réponses qui n'ont pas été données, il faudra qu'elles soient apportées. Il faudra aussi qu'elles soient apportées par écrit. Il n'est absolument pas acceptable que certaines formes de diktat opérées par le directeur de la SAFER lui permettent de ne pas répondre par écrit à des questions qui sont posées par écrit. Donc, rendez-vous au prochain épisode. Je ne doute pas un seul instant que ni la profession agricole, ni les citoyens, ni les associations, ni les militants, ni les élus qui se sont mobilisés sur ce cas vont baisser les bras et vont rester là.
La lutte continue, et c'est vrai que ce projet alternatif et citoyen pour la ferme des Bouillons, ça ne plaisait pas à tout le monde. Au groupe Imochamp, par exemple, qui voulait peut-être prendre sa revanche, et de voir aboutir un projet comme celui-là, ça pourrait donner l'exemple, le mauvais exemple, pour d'autres zones et lieux à défendre. Quant à Notre-Dame-des-Landes, la pression remonte. Et l'agriculture paysanne, c'est sympa, mais franchement, ça fait pas du bien à Monsanto.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. 17 ou 18 personnes, on n'a pas fait le compte exact, sont retenues en otage depuis plus de 10 heures maintenant par 3 hommes armés de pistolets et de grenades dans la salle de la cour d'assises du palais de justice de Nantes.
15h45, Georges Courtois, enchaîné au président du tribunal, apparaît.
L'humiliation suprême, quoi. Le président de la cour d'assises enchaîné avec des cadenas. Oh là 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 là. Ah, c'est le monde à l'envers, hein. je dis ici devant ce monsieur que notre but n'est pas de faire du mal à qui que ce soit.
Ce qui n'est pas passé dans la presse et qui est pourtant un des ressorts essentiels de cette prise d'otage, c'était la révolte de Courtois.
Et en 2002, ils m'ont remis la main dessus, ils m'ont mis 24 ans de prison.
Décembre 1985, Georges Courtois et deux complices prennent la cour d'assises du tribunal de Nantes en otage. Paix exceptionnelle, les trois malfaiteurs convoquent les caméras de télévision et pendant 36 heures, ils renversent la vapeur. Au lieu d'être jugés pour divers braquages, cette fois c'est eux qui mèneront la danse et feront le procès de la justice, des magistrats et de la société carcérale. Une attaque unique en son genre, une dénonciation cinglante du pouvoir judiciaire de cette machine à distribuer les peines. Georges Courtois a aujourd'hui 67 ans. Il vit à Nantes et aura passé près de la moitié de sa vie en prison. De bistrot en bistrot, ce paisible retraité revient avec nous sur son parcours de gangster professionnel et sur le sens de cette prise d'otage qui défrayait la chronique voici bientôt 30 ans.
Bonjour. Ici, on est où, là ?
On est à la gare de Nantes.
Dans un café qui s'appelle le Café des Plantes.
C'est mon QG, parce que bon, c'est là que je vois ma fiancée, enfin, qu'on se donne rendez-vous, parce que faut faire attention, il y a un mari, donc...
Il y a un mari ?
Pour travailler sur la corde raide. Hein.
Vous vous appelez comment ?
Georges Courtois. Je suis né ici, en 47. Je suis né au quartier rue du Marché, à côté de la tour de Bretagne. Mais c'était moi, je suis né dans un quartier qui avait été bombardé. C'était des maisons inhabitables, en fait. On était des réfugiés avant l'heure, quoi. Après, on a hérité des trucs qu'avait eu en 54 avec l'abbé Pierre. Hein. Les cages à lapins, quoi. Hein. Ça trouvait là-dedans, en banlieue, là. Oh là là. C'était assez atroce aussi, hein. C'était des quartiers vraiment infréquentables, quoi.
Vos parents, ils faisaient quoi ?
Bah, ma mère travaillait pas, mon père était chef de chantier. Enfin, bah, le pauvre, il est mort à 39 ans, hein. Un accident du travail. Hein. Il est tombé de 37 mètres de haut à Rochefort-sur-Mer, hein, dans une pile de ponts. Hein. Il travaillait sur des ouvrages marins, quoi. Des ponts, des barrages, des trucs comme ça. Il est mort en 66, le 16 septembre, donc avant-hier, on va dire. Alors là, moi, ça m'a pas enclin à rejoindre le monde du travail. Hein. Déjà, j'avais décidé que je travaillerais pas. Alors là, ça a été le bouquet. Hein. Ma mère a s'y retrouvée sans rien. Hein. Et la boîte où travaillait mon père, en fait, ils ont fait 15 ans de procès, quoi, pour payer. Il a fallu que j'aille là-bas les secouer un petit peu, là, dans la boîte. Bon, ben, ils ont payé. Et moi, j'étais déjà gangster à l'époque, c'était pas le moment de nous faire chier.
Alors, vous faisiez quoi dans la vie ?
Bah, rien du tout, j'étais voleur professionnel, on va dire. Hein. C'est-à-dire, tout ce qu'il y avait à prendre, je le prenais, sans état d'âme. Donc, je me suis mis d'abord voleur de meubles dans les châteaux, les antiquités, les trucs comme ça. Ensuite, de quoi je me suis mis braqueur de banque. Alors, ce qui était rigolo, c'est que, par exemple, à la BNP, je disais « Bonjour, votre argent m'intéresse ». J'employais le slogan des banques. Alors pour Crédit Agricole, je viens ici, j'habite juste à côté, c'est le bon sens près de chez moi, je me présente. Alors bon, on a bien rigolé pendant quelques années comme ça, jusqu'en 1982-83. Ouais, ça marchait bien. Hein. Et puis bon, bah, ils m'ont mis au placard. Alors là, attention, là, c'était du 20 ans à la clé. Hein. Ouais. Et donc, on a décidé de mettre la main sur ces mecs-là au palais de justice en 85. Là.
Ces mecs-là, c'est qui ?
Bah, les juges, hein, les juges, les jurés, tous ces gens qui font n'importe quoi. Mes potes et moi, on en avait marre de leur gueule, quoi. Il fallait que ça s'arrête. Bah, ça s'est pas arrêté, évidemment, mais bon, il fallait faire quelque chose, quoi. Ils m'ont mis les 20 ans, hein, quand même. Hein. Mon pote, il a pris 20 ans aussi, un autre en a pris 14.
Nous sommes ici pour nous en aller, là où nous devons aller. Où nous irons, où nous mourrons ici, tous les gens qui sont ici derrière ce bureau, nous y compris. Ça ne pose aucun problème.
Prise d'otage sans précédent au palais de justice de Nantes ce matin, presque devant les caméras de FR3. Madame, monsieur, bonsoir, ce sera là le titre principal de cette édition.
Et en 2002, ils m'ont remis la main dessus, ils m'ont mis 24 ans de prison. 24 ans de prison, 2 ans, 10 ans et 12 ans. Et je suis sorti il n'y a pas longtemps, hein, ça fait 18 mois.
Là, ça fait 18 mois que vous êtes...
Ah oui, ils m'ont gardé de mars 2002 à février 2014. À l'île de Ré, là-bas. Au bagne. Ah là là.
Ça fait que vous avez passé combien d'années en prison ?
J'ai commencé ma carrière en 61, je l'ai terminé en 2014. Bon, évidemment, j'ai eu des périodes où j'y étais pas, hein, mais... La première fois, ils m'ont fait faire 9 ans de prison. Après, ils m'ont fait faire 15 ans. Et là, ils m'en ont fait faire 12. Donc, ça fait 36, quoi. Là, ça va pas très, très fort. J'ai ma femme qui a un cancer généralisé, enfin, mon ex-femme, parce que je suis divorcé depuis 2008. La chance que j'ai eue, c'est que quand je l'ai rencontrée, j'étais déjà dans la criminalité. Et je lui ai pas caché, je lui ai dit, quoi. Je lui ai dit, voilà, moi, je travaille pas, je suis voleur. De temps en temps, je serai absent pour des raisons professionnelles. Je te préviens tout de suite. Elle était d'une bonne famille, ça allait, quoi. Alors, elle m'a dit, bon, ben, d'accord. Et elle a toujours tenu le choc, hein. C'est dingue, hein, quand même. Elle venait toujours me voir, elle amenait les enfants, elle les a élevés dans cet esprit-là. Elle leur a pas dit que j'étais au travail ou à l'hôpital. Elle leur a dit, papa, il est en prison. Voilà, quand il voyait la télévision, j'étais content. Les petits-enfants aussi. On était une belle famille quand même. Malgré les aléas et les épreuves qu'on a dû traverser, on a bien résisté, quoi. Enfin, surtout eux, quoi.
On a de la chance, il fait beau, là, aujourd'hui, on peut être dehors.
Ouais, ben attends, je vais payer ça, puis on va se casser, parce que faut que j'aille acheter des cigarettes, là. Parce que j'ai plus de cigarettes, je peux t'en prendre une, là ? Là, au bout, c'est là, il y a la préfecture. Alors ici, c'est un quartier quand même où les loyers sont très chers. Ces vieux trucs-là, c'est des trucs de négriers. Parce que Nantes a été une des villes...
Très négrière, ouais.
Ça, c'est des bâtiments de l'époque des négriers. Là, moi, je suis né derrière la tour. Hein.
La grande tour qu'il y a là,
ouais, ouais.
Ça n'existait pas, tout ça.
Non, non, c'était des maisons qui avaient été bombardées. Il n'y avait pas de porte, il manquait des bouts de mur. Et ils avaient entassé tout un tas de gens là-dedans. On était des semi-clochards. Hein. On n'avait pas de sous, on n'avait rien. On allait au... J'appelais ça la patate électrique, moi. C'était, comme qui dirait, le restaurant municipal, là. Alors, t'avais des tickets bleus et des tickets jaunes. Alors le ticket jaune, t'avais pas le droit à la viande. Et le ticket bleu, t'avais le droit à la viande. Alors avec ma sœur, on essayait de voler des tickets bleus. Après, moi, je suis parti, hein, ils m'ont jeté là-bas à Bordeaux. Comme je volais tout ce qui dépassait, bah, ils m'ont mis en prison en octobre 1961. J'avais 14 ans.
Bandit, voyou, voleur, schnappant. Au-dessus des mille... On voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau.
Enfin, il en avait marre, le juge. Mais bon, on était dans un quartier. Tous les gosses de la cité faisaient ça. Hein. C'était des pauvres. Hein. Moi, j'ai volé le vélo du boucher, quoi, avec le panier et tout. Moi, j'étais petit, je devais avoir 11 ans, un truc comme ça. Je ne pouvais pas monter dessus. Donc, j'étais obligé de me mettre à travers le cadre. Mais c'était déséquilibré. Je me suis pris une gamelle. Donc, le boucher, il m'a mis la main dessus. Hop ! Je me suis retrouvé chez le juge des enfants. Hein.
Pour avoir volé de la viande.
Ouais, ouais, ouais.
Bandit, voyou, voleur, schnappant. C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse. Bandit, voyou, voleur, schnappant.
Donc ils m'ont emmené à Bordeaux, là-bas. C'était une maison de correction, moi, de l'époque, hein, des années 60. Hein. Ça s'appelait le Prado. L'adresse, déjà, chemin des orphelins. On était, je sais pas, 280, je crois, là-dedans. Hein. le curé qui avait inventé ça, Monseigneur Ancel, c'était un évêque, hein, je sais pas, et il se vantait d'avoir 20% de réussite. C'est-à-dire 80% d'échecs, quoi, en fait. De tous les gens que j'ai connus là-bas, dans 3 ans et demi, j'en ai connu pas mal. J'en ai jamais revu un dehors. Je les ai tous revus en prison, ceux que j'ai revus. Ben, ça veut dire que c'était une espèce de succursale de la cour d'assises, quoi.
Ça se passait comment, là-dedans ?
Oh, c'était atroce, hein, c'était assez violent. Y compris avec le personnel, hein. C'était chaud. C'était des anciens parachutistes qui revenaient de la guerre d'Algérie en 62. Alors ils se croyaient encore au bled d'abord, quand ils s'occupaient de nous. Hein.
Il avait dit, j'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens à coups de clé lui avaient brisé les dents. Et puis il l'avait laissé.
Oh là 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 là, oh les mecs.
Bandit, voyou, voleur, je m'apprends. Maintenant il s'est sauvé.
Il est en treillis et tout.
Quels sont ces éclairs, ces bruits? C'est un enfant qui s'enfuit. On tire sur lui à coups de fusil. Bandit, voyou, voleur, chapant, ces messieurs sur le rivage. Sans bredouille et vert de rage. Bandit, voyou, voleur, chapant. Rejoindras-tu le continent?
Alors on est à Nantes, s'arrêter dans un café pour que Georges aille aux toilettes. Georges Courtois, en 1985, mais il a pris en otage la cour d'assises de Nantes. Il a retourné la vapeur, il a fait le procès de la justice et des magistrats face aux caméras de télévision. Pour une fois, c'était pas lui qui était jugé, c'était lui qui jugeait la justice, les magistrats, le système carcéral. Mais pour en arriver là, c'est des années d'humiliation qu'il a vécues en prison.
On s'installe dans un café, là c'est à côté du quartier où vous avez grandi.
C'est à 20 mètres.
Alors là vous étiez en train de me raconter le Prado.
Ah ouais, c'était pas une prison moi, parce que bon, on pouvait faire le mur. Alors. Et puis un jour je me suis barré au bout de 3 ans et demi.
Vous aviez quel âge quand vous étiez rentré au Prado ?
J'avais 14 ans. Et à 17 ans, je suis parti. J'ai dit, allez, ça suffit. Attention, hein, j'avais réussi à avoir une dérogation pour aller au lycée à Talence, dans la banlieue de Bordeaux. J'ai passé un bac littéraire, tout ça.
Vous aimiez ça, vous, l'école ?
Ah ouais, moi j'étais un bon élève. Hein. Je voulais être prof de français, moi. Alors j'ai passé donc un bac de lettres, après j'ai préparé une licence de lettres, comme en prison, hein. Et je voulais passer le CAPES. Et un jour, je reçois une lettre du ministère de l'Éducation nationale, comme quoi, compte tenu de mes condamnations, je ne suis pas éligible au poste d'enseignant. Quoi. Donc, c'est pas la peine de continuer. Quoi. Bon, j'ai arrêté. C'est con, hein. Vous mettrez un muscadet, s'il vous plaît. Et puis, je sais pas.
Bah, un café, s'il vous plaît.
Donc, je me suis barré. Bon, bah là, je suis retourné chez mes parents un petit peu, à Nantes. Bon, alors là, j'ai repris ma carrière de voleur. Hein, de
vous n'avez pas voulu faire un métier ou...
Ah non, 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 moi, non, le travail, pour moi, c'était un fléau, quoi. Après, j'ai rencontré ma femme en 67, et là, c'était parti. On s'est installé à Paris.
Et à Paris, vous faisiez quoi, alors ?
À Paris, j'étais antiquaire brocanteur. Alors c'était bien parce que j'ouvrais la fenêtre, ça donnait sur les puces. Et les mecs qui nous achetaient les meubles, c'était des Italiens qui avaient un magasin d'antiquité au marché Biron. Bon, on allait partout, hein, dans la vallée de Chevreuse, dans la Côte d'Or. Là, il y avait des sous dans les châteaux et tout. Hein.
Vous faisiez les châteaux ?
Château, manoir. Mais on était bien organisés, on avait des faux électriciens qui se présentaient dans le château.
Des faux électriciens ?
Et qui allaient voir la concierge, enfin la gardienne, toi. Et qui disait qu'ils sont chargés de vérifier les installations d'électricité et de gaz de toutes les demeures de plus de tant d'années. Et t'avais le mec qui était en uniforme de l'électricité, qui posait mine de regarder. Et l'autre, il avait une espèce d'ardoise, et il marquait. Fauteuil machin, commode truc, secrétaire machin, cabinet de toilette, tu vois.
Tous les meubles qui avaient de la valeur.
Tous les meubles, c'était des spécialistes, des mecs qui connaissaient bien les styles et tout, quoi. Donc ils revenaient chez les Italiens, ils donnaient la liste, et les Italiens disaient, bon, bah, il nous faudra ça, 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 ça et ça. Et là, attention, hein. Là, ça payait. Hein. Donc ça durait jusqu'en 71, 72. Bon, après, j'ai mon pote qui a tué un mec, donc il est rentré en prison. Et j'ai décidé d'aller l'enlever de la prison. Alors, bon, j'étais pas très équipé à l'époque en armement et tout ça, donc j'ai été braqué un armurier à côté de Nevers, là-bas. Mais seulement le problème qu'il y avait, c'est que mon pote, le mec qui était avec moi, c'était le frère de mon pote qui était en prison. Et c'est lui qui l'avait balancé.
Votre pote avait balancé son frère qui était en prison.
Voilà. Mais moi, je savais pas. Donc quand je lui ai dit, bon, écoute-moi bien, vendredi, on va monter dans le train, et j'ai dit, on va lever ton frère, il m'a balancé, quoi, l'enculé. Et donc, quand je suis arrivé à la sortie d'Angers, je me suis fait tirer par les gardes mobiles. Oh, la voiture était pleine de fusils de calibre et tout. Oh là là là. Et ils m'ont mis 12 ans de prison.
Ça, c'était la première longue peine.
Ouais. Bah, après, c'est bon, hein, je suis sorti en 81, jusqu'en 83. Alors là, j'ai fait dans le bancaire. Alors là.
Dans le bancaire.
Ah ouais. Ouais, les retraits à vue, fallait voir ça. Hein. Alors là, c'était deux fois par semaine. Hein. Ils présentaient notre sac, ils nous le remplissaient. Hein. Je mettais des billets de 500 francs dans l'oreiller pour les entendre quand je remue la tête, quand je dors. Mais ce qu'il y a, toi, c'est que tu sais que ça ne va pas durer, un truc comme ça. Ça n'allait pas durer. On allait se faire serrer un jour ou l'autre. Hein. Ça ne dure pas ad vitam aeternam. Hein. Bon. Donc ça a duré 2 ans. Là. Mais ça se passait magnifiquement.
Jamais de coup de feu, jamais de blessés.
La dernière fois, donc en 83, là, on se fait fusiller par la police ici à Nantes. Là. Alors là, ils nous ont serré, la voiture a pris feu. Enfin, écoute-moi, ça a été une histoire. Celle pour laquelle je suis rentré avant le palais de justice. Là.
Madame, monsieur, bonsoir. À Nantes, une quinzaine de personnes sont encore sous la menace de 3 hommes fortement armés. Cette prise d'otage très spectaculaire s'est déroulée ce matin en pleine audience de la cour d'assises de Nantes, où l'on jugeait 3 hommes accusés de plusieurs hold-up. Un complice, entré comme spectateur, a pu leur faire parvenir des armes, des revolvers de gros calibre et sans doute une ou plusieurs grenades.
10h ce jour-là, Georges Courtois et Patrick Thiollet comparaissent pour hold-up avec violence. Patrick Thiollet, 24 ans, personnage discret, réservé. Il a à son actif de nombreux vols. Il a déjà fait plusieurs séjours en prison. 10h15, un homme armé pénètre dans la salle. Coup de feu, l'affaire de Nantes commence. Cet homme qui vient délivrer ses amis, c'est Abdelkarim Kalki, 35 ans. Condamné en 83 pour vol avec port d'armes, il était sorti de prison à l'expiration de sa peine, 20 jours tout juste avant son coup de force au tribunal. Dernier personnage, Georges Courtois. 3 chiffres pour le situer, 38 ans, 20 ans de prison, 21 condamnations. Habitué des assises, il se fait généralement remarquer par son sens de la répartie et ses provocations au cours des débats.
Donc c'est là que j'ai frappé. Tu vois où il y a les drapeaux là? C'est le palais de justice ça. L'ancien palais de justice qui est devenu maintenant l'hôtel 5 étoiles. Le restaurant il est dans l'ancienne cour d'assises où nous avons procédé.
Donc 1983, vous êtes fait serrer par la police sur un braquage.
Et en 85, on frappe.
C'était au cours de votre procès. Vous avez fait 2 ans de préventive en fait.
Ouais.
Là on est arrivé, bah, ça ressemble toujours à un palais de justice.
Parce qu'ils n'ont pas eu le droit, parce que c'est classé à l'UNESCO.
C'est très propre, très blanc.
Viens, je vais te faire voir où ça fait.
Ah ouais, 4 étoiles. Bonjour.
Donc c'était là, tu vois.
Cour d'assises. Ils ont gardé le fronton.
Ouais, alors il y a des impacts de balles dans les colonnes. Là.
Des impacts de quelles balles?
Bah, que j'ai tiré sur la police. Hein. Ici.
Là, il y a un petit lounge avec des canapés.
Tiens, comment? Et toi, ça va?
Bonjour. Bonjour.
J'attends qu'on n'est pas venu. Je vais te voir. Hein?
Tout le monde vous connaît? Vous allez nous entrer? On rentre dans la salle, le restaurant. Plein de gens attablés.
C'était les magistrats.
Sur l'estrade là-bas au fond.
Avant, là, il y avait le box. Les témoins, ils rentraient par là. Ça, c'était par où les mecs rentraient.
Les accusés ?
Oui, c'était un box ici, tu vois.
C'était ici que le 19 décembre 1985...
Voilà, 19, hein, on est resté deux jours quand même. Hein.
Vous avez pris en otage la cour d'assises de Nantes.
Où nous sommes aujourd'hui. Formidable, hein ? Là, c'était des bancs, tu vois. Il y avait plein de bancs.
Pour le public qui s'assoit.
Pour le public. Et donc, mon pote, il est rentré par là, là.
C'était Karim Kalki.
Voilà, par la porte violette, là. Il a ouvert le feu sur la police, là, dans le bordel, là.
Bonjour.
Ça va ?
Très bien. Ah. J'ai juste vous demandé de laisser rester en promenant. Vous pouvez repasser tout en armée. Hein.
Non, juste pour le service. Non.
Pourquoi on ne va pas déranger les gens ?
On va pas rester ici, j'ai des connards. Ouais, donc il est passé par là, lui. On était dans le box, on l'entend, putain. Enfin, voir comment ça résonne là-dedans. Hein. Oh, j'ai dit, ils sont en train de le fusiller. Hein. Et moi, je sais que c'est lui qui arrive. Penses-tu, le mec qui arrive, il rentre. Hein. Il rentre avec un poulet, il attrape un poulet qu'il a emmené avec lui. Tu vois. Il rentre là-dedans et voilà. Attention, on a levé 23 poulets. Hein. J'ai récupéré tous les calibres, j'ai mis ça dans des poules, dans corbeilles à papier. Bon, enfin, c'était invraisemblable. Hein. Alors, monsieur Broussard s'est présenté avec les cagoulés du raid. Hein. Le raid, il avait 3 mois d'existence. Donc les recommandations, c'était pas de bavure et surtout pas d'atteinte aux personnes civiles. Donc...
On sort là du palais de justice qui est devenu un hôtel.
Ouais. En cas d'affrontement à coup de calibre, il faut pas répliquer.
heures. Des forces de police importantes prennent position autour du palais de justice. 15h, le préfet Broussard et les spécialistes du RAID, la toute nouvelle brigade de recherche de dissuasion et d'intervention antiterroriste, arrivent sur les lieux. Les tireurs d'élite se placent au point stratégique, sur les toits et sur la verrière qui surplombe la salle d'audience.
Attention!
Attention. 15h45, Georges Courtois, enchaîné au président du tribunal, apparaît.
Alors là, je les ai allumés. Alors là, il y avait, tu vois, c'était des travaux, là. Alors, il y avait des palissades. Alors, ils étaient cachés derrière, tout, les journalistes. Donc, je me suis énervé, là, dans haut des marches, là. Je leur ai demandé de partir, ils n'ont pas voulu partir, donc j'ai ouvert le feu sur eux. Ils sont descendus, évidemment.
Pourquoi vous avez décidé d'organiser ça
Parce qu'on en avait marre d'eux. On en avait marre d'eux.
Nous sommes des gens qui ne reculons jamais. Il faut bien se dire ça. Pour ma part, et pour celle de M. Thiollet, j'encourais aujourd'hui une peine de 20 années de réclusion criminelle. Je pense qu'une peine de 18 années aurait été prononcée contre moi. Une peine de 10 années aurait été prononcée contre M. Thiollet. Il est hors de question que nous subissions de telles peines. En fait, l'exécution de ces peines correspond, dans la réalité, à notre mort sociale. Pour ma part, et pour celle de M. Thiollet, je préfère mourir matériellement. C'est beaucoup plus intéressant que de pourrir dans une centrale. Je les ai fréquentés, c'est vraiment pas passionnant. Moi, je suis quelqu'un qui meurt avec des balles dans la tête. Ou alors qui meurt dans son lit, si la chance me sourit. En père peinard, après avoir fait ce que j'ai à faire.
Ouais, ça pesait à l'époque... Depuis 61, qui me traînait dans les prisons, on était en 85, ça faisait 25 ans quasiment. Hein. Moi, j'en avais marre. Hein. Moi, je leur ai dit, écoutez, vous commencez à bien faire, hein, ça fait moins des années que vous nous cassez les pieds. Maintenant, c'est terminé, j'ai dit, on va changer un petit peu. Hein. C'est vous qui allez passer en jugement, vous allez voir, ça va être autre chose.
J'aimerais bien que les gens qui sont ici nous donnent également leur impression, c'est-à-dire... Quel effet ça vous fait d'être venu pour juger quelqu'un et finalement de vous trouver en position d'être jugé à votre tour. Qu'est-ce que ça vous fait? Hein? Qu'est-ce que ça vous fait? Madame. Non, mais enfin, ce que je veux dire, ce que je voudrais savoir, c'est le rapport que vous faites entre ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on vient tranquillement condamner les gens, et puis on s'aperçoit que ça se passe pas comme ça.
Nous, on n'a rien fait, il y a une dame qui dit vous n'avez rien fait. Comment vous n'avez rien fait? Vous êtes coupable, comme les autres. Elle dit, mais on est coupable de quoi, ça? Eh bien, j'ai dit, vous êtes coupable d'ignorance. Hein. C'est-à-dire, on vous amène ici, on vous explique rien du tout. Vous allez signer un papier, vous allez mettre les gens 20 ans en prison. Vous n'avez rien à faire ici. Vous n'avez qu'à refuser de venir.
Je dis ici que quand on vient dans une cour d'assises condamner des gens à des peines que je qualifierais de définitives, quand on vient procéder à l'élimination de certains individus, on doit être conscient de ce qu'on fait.
Ne nous trompons pas d'ennemis, j'ai dit.
Est-ce que l'ennemi, c'était qui?
L'ennemi, c'est les juges. Hein. Les juges qui obligent les citoyens à se retrouver dans des situations vraiment invraisemblables. Tu ne peux pas attraper quelqu'un dans la rue et lui demander d'aller mettre 20 ans de prison à un mec qu'ils n'ont jamais vu. Hein. Ça craint un peu, quand même. Tu veux qu'on aille manger quelque part, hein?
Ouais, on peut manger un morceau, ouais.
On va aller chez mon pote là-bas, il fait brasserie. Hein.
Ils sont très déterminés.
Regardez, c'est une grenade découpillée. Je lâche et puis c'est tout, moi. Je vais me flinguer et je vais jeter cette grenade.
C'est des truands qu'on était à juger. On les aurait sans doute condamnés, je ne sais pas à combien. Eux, ils ne voulaient pas retourner en prison. Bon, ben, on s'est aperçu que tout n'est pas blanc et noir, comme on le croit souvent. Ça donne à réfléchir.
J'ai croisé Jo Courtois en prison ici à Nantes. Pour moi, c'est un beau personnage. C'est un mec qui est super. Alors, je souhaite de tout cœur qu'il aille jusqu'au bout. Parce que s'il lâche, il me décevrait.
Là, on est dans un café. C'est votre père, un peu.
Ouais. Finalement, cette histoire du préjustice, ce qui est curieux, c'est que tous les jurés nous ont écrit, quasiment. Moi, j'en ai une qui est venue me voir pendant 10 ans en prison. Hein. C'était un peu ma chérie, hein. C'est des gens qui ont regretté d'être venus, quoi. Parce que moi, la jurée qui venait me voir en prison, elle m'a dit, si ça se passe pas, je te mets 20 piges, moi. Il m'aurait convaincu, je pense que je t'aurais mis 20 ans, quoi.
Et quand vous avez décidé de mettre ça au point, vous aviez quoi en tête, en fait?
Nous, c'était l'humiliation de ces gens-là. Il faut que ces mecs-là, ils payent, quoi. Parce que ça suffit.
L'idée de les humilier.
Ouais, leur montrer que... En fait, leur pouvoir était factice, en vrai. Hein. Qu'ils pouvaient tomber sur des gens qui sont soi-disant des gens qu'on peut traiter n'importe comment et qui sont capables de les traiter, eux, encore pire, quoi, finalement. Enfin, pire. L'humiliation suprême, quoi. Le président de la cour d'assises enchaîné avec des cadenas, quoi. Oh là 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 là. Ah, c'est le monde à l'envers, hein. Ah, c'était rigolo.
Si Courtois il n'est pas parti dans les 3 minutes après la prise d'otage, c'est qu'il avait des choses à dire. Il était heureux de parler de la prison. Et c'était ça, c'était cette révolte, c'était un acte de désespoir qu'il fallait qu'il médiatise. On sentait que c'était urgent, ça. On sentait qu'il fallait qu'il dise les choses.
En fait, c'est une espèce d'engrenage, quoi. C'est obligé de finir comme ça, quoi. Quand tu vois que ces gens-là, ils se saisissent de toi pour n'importe quoi, ils te mettent des peines incroyables, pour rien, enfin pour rien, ça vaut pas ça, quoi. Enfin, moi, je suis pas contre la justice, je suis pas contre la police, j'estime que c'est des choses qui doivent exister dans une société constituée, tu vois. Mais faut que ça soit une justice juste, quoi, à vrai dire. Pas des massacreurs, alors que ça sert à rien. Je veux dire, ça n'a aucune signification.
Il n'y a aucun sens aux peines, en fait.
Voilà, il n'y a pas de sens. Tu vois, c'est disproportionné, tu vois.
On est revenu dans le centre de Nantes.
Là, la fameuse fresque. Bon, ils nous ont à moitié tagués, tu vois, ils m'ont mis là, moi.
Vous avez le magistrat enchaîné.
Voilà, ouais.
Avec les menottes.
Ouais, ouais.
Deux pistolets dans chaque
main. Ouais, ouais.
La cigarette au bec.
Ouais.
En costume.
Ouais.
Des lunettes.
Elle est un peu escatée parce qu'il y a des SDF qui viennent faire du feu, tu vois. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Mais de temps en temps, il la retape, tu vois. Ouais, bah c'est toute l'histoire de Nantes. Hein. Il y a Jules Verne. Jules Verne, il est né là. Ça, c'est la géante de Royal Deluxe, là. Après, il y a les mecs de l'Empire, là. Il y a Barbe Bleue. Et tout ce qui a une histoire attachée à la ville, quoi.
Et vous, finalement, vous êtes rentré dans l'histoire de Nantes.
Voilà, exactement. On a eu assez bonne presse, finalement. Hein. Il faut dire ce qu'il y a. Une bonne presse, je parle auprès des gens de la rue. Un jour, il y a un mec, je marchais comme ça, j'étais avec ma femme. Il y a un mec qui arrive avec 3-4 personnes. Il passe à côté de moi, il me regarde comme ça, il me double. Hop, il revient. Il me tend la main comme ça et il me dit « Merci pour tout. Hein. » C'est Guignol qui tape sur le gendarme, quoi. C'est un peu ça, quoi, finalement. Les gens, ils ont tous eu des problèmes avec la police. Pas forcément la justice, mais enfin la police, l'autorité, quoi. Et quand ils voient qu'ils sont mis minables, en fait, ça les dit, ça, bah, tiens. Hein? Peut-être qu'ils se disent qu'ils auraient bien aimé faire ça, enfin, pas ça forcément, mais enfin, je veux dire, se rebiffer ou. Et ils n'ont pas fait, quoi. Donc, ils disent, c'est comme si t'étais intervenu par délégation, quoi, tu vois, par procuration. Par contre, les journaux eux-mêmes, mais les journaux d'ici, là, ils étaient assez minables, quand même. Un peu chauvins, quoi, du côté du pouvoir. Donc, ils prenaient le parti des juges, de la police, tu vois, que c'était une honte et un scandale. Mais en règle générale, dans la ville elle-même, ça a été assez bien reçu, quoi.
Cauchemar au plus sombre du soir, quand il rampe droit sous le voile froid de tes draps de soie, sans préavis, dès que la nuit leur a souri, y a des griffes noires qui se marrent au bord de ton plumard. Elles aiguisent leurs dents grises sur ta nuque, ta chair blanche perruque, et l'odeur de la loi qui colle à tes robes de magistrat. Là-bas, une lourde porte grince et s'ouvre, derrière en voile de soufre des visages se pressent, s'agglutinent en cercle des visages convexes, balafrés et muets. Une épine à l'échine, tu te sens blêmir, frémir, tu voudrais fuir, courir, mais tes chevilles ont des chaînes et tu trébuches puis te traînes, en couinant comme un goré perdu en pleine forêt. Et t'as à peine le cul au sol qu'une main sale t'attrape au col et te plaque les deux épaules sur un de ces bancs usés d'accusés. Te voilà sur la dalle d'un tribunal peu banal, tu reconnais tous les jurés. Tu peux les revoir en ta mémoire, tous ces voleurs de poules et de pommes fondront larmes sous la lame de tes jugements prononcés. Et aujourd'hui c'est jour de fête, c'est à ton tour de comparer. Tu cries pardon, tu cries à l'aide, mais rien n'y fait. Sur un tableau noir d'écolier à la craie on te dessine une petite guillotine.
Merci à Georges Courtois, aujourd'hui paisible retraité à Nantes. Et en prison, Georges n'a pas perdu son temps. Il a écrit ses mémoires, qui seront publiées fin novembre aux éditions Le Nouvel Attila, aux Marches du Palais. Mémoire d'un preneur d'otages avec une préface de Dominique Simoneau. Et en attendant, l'autoportrait en cagoule de Georges Courtois est paru dans le numéro 2 de l'excellente revue Jeff Clack, disponible dans toutes les bonnes librairies.
C'était comme un bruit qui court. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de l'émission à l'adresse franceinter.fr où vous pourrez aussi vous abonner au podcast. Laissez-nous aussi vos messages, faites courir le bruit sur les réseaux sociaux avec un mot d'ordre, mot dièse, comme un bruit. Les franciliens, eux, ont rendez-vous tout le week-end Place de la République pour le grand rendez-vous Alternativa. Et vous, après les infos, vous retrouverez la preuve par Z avec Jean-François Zigel. Et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h pour prendre un peu de hauteur avec de véritables winners.